I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, j'ai l'appli là.
Ouais.
Lime. Je vais scanner le QR code.
Mmh.
Hop.
Déblocage en cours. T'as des petites infos.
Et là, c'est parti, mon gars. Je te le dis. On n'a pas peur. Là, on monte à 80.
À
on
80.
Prend le périph. Débridé.
Il est parti, voilà. Tu fais des dérapages avec.
Je suis en freestyle.
Salut, c'est Thomas Rozek. Je suis plutôt un mec mesuré, assez calme, assez patient. Mais s'il y a bien un truc qui à peu près tous les jours me met hors de moi, c'est les trottinettes. Alors évidemment pas celles des enfants qui les utilisent pour aller à l'école ou au judo, c'est plutôt mignon. Non, ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les adultes à trottinettes. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un quadragénaire en costard-cravate qui dévale à toute allure une avenue bondée au beau milieu du trottoir, le nez au vent, persuadé d'être au sommet de la mobilité urbaine disruptive. Bon, malgré cette haine viscérale, je suis bien obligé de reconnaître que j'ai perdu la bataille. Les trottinettes électriques notamment sont partout dans les grandes agglomérations. Et avec l'implantation galopante d'entreprises proposant ces engins en libre service, elles sont pas prêtes de quitter les rues. Donc, question, comment réguler tout ça? Comment faire en sorte que les trottoirs ne mutent pas en zone d'ultime danger où on slalome en permanence entre deux engins électriques propulsés à 20 à l'heure, frôlant à tout instant l'accident? Comment faire cohabiter l'inarrêtable marche du progrès et le pas tranquille des piétons comme moi? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour démarrer, je suis allé me balader dans le quartier de Belleville à Paris, mais pas tout seul. J'y suis allé avec Jean-Paul Lechevalier, c'est le porte-parole de l'association 60 millions de piétons, qui, comme son nom l'indique, défend les droits des piétons dans l'espace public. Je lui ai demandé ce qu'il pensait, en toute honnêteté, de ces engins électriques.
Dans le principe, je suis pour l'électromobilité en ville. Pourquoi ? Parce que tous les engins électriques, que ce soit les bagnoles, de la Tesla, de la luxueuse Tesla, jusqu'à la petite trottinette électrique, eh bien, tous ces engins-là, ils n'émettent aucun gaz, ils n'émettent aucun gaz d'échappement, un, numéro un, et deux, ils sont silencieux.
Oui.
Et ça, c'est des vertus en ville. Sur les autoroutes, on s'en fout que les bagnoles, enfin, on s'en fout, c'est pas, ça pollue beaucoup moins de gens qu'en ville sur les autoroutes. Donc, très bien, on peut circuler avec des voitures, des moteurs à explosion. Mais en ville, le moteur électrique, c'est une vertu, parce qu'en ville, on a des concentrations d'individus très importantes, nous sommes tous citadins et nous respirons toutes les cochonneries des moteurs, d'une part, et nous avons le bruit assourdissant des motos. Les voitures, elles sont de plus en plus silencieuses, hein, mais les motos, c'est monstrueux. Donc, vous voyez, je suis pour l'électromobilité, mais, je défends les piétons, donc je défends les trottoirs, et je considère que les monoroues, les deux roues, ou les trottinettes électriques, ou tout ça, qui circulent sur les trottoirs, c'est un danger, et on connaît beaucoup d'accidents. Hein.
Oui.
On connaît, ils nous remontent, en tant qu'association, pas mal d'accidents qu'on connaît, et des accidents graves. Hein.
Quel genre d'accidents, par exemple ?
Des gens qui se font percuter, tout simplement.
Oui.
Qui se font percuter parce que c'est des jeunes utilisateurs. Bon, ils roulent, et puis il y a une vieille dame, boum, pas grave, il la percute. Et on a plusieurs... On ne référence pas tous les accidents, mais on a connaissance d'accidents très ennuyeux. Donc voilà, c'est un sujet un peu de santé publique. Et puis les trottoirs où on veut se balader tranquillement, quand on voit quelqu'un qui vous passe à côté là à 20 ou 30 à l'heure, voire plus, parce que les trottinettes électriques, j'ai vu des trottinettes qui affichent 80 km à l'heure. c'est vous dire que c'est pas fait pour circuler sur les trottoirs. C'est pas du tout compatible avec le trottoir qui est l'espace des piétons. Les piétons, les piétons, c'est les plus fragiles dans la circulation. Vous et moi, on marche à 4 km à l'heure, voire plus, mais une personne très âgée avec un déambulateur, une canne, etc., marche parfois à 2 à l'heure ou 1 à l'heure. Donc c'est totalement incompatible, ces engins-là sur les trottoirs, avec ces personnes qui circulent lentement.
Et où est-ce qu'il faudrait qu'ils roulent alors? Vu qu'on aura du mal à les empêcher de rouler.
Moi, j'ai un truc imparable. ces engins-là, ça s'assimile à un vélo, les trottinettes électriques, les monos et les monoroues. Ça s'assimile à une bicyclette. Pourquoi ? Parce que c'est silencieux, c'est mono-utilisateur, ça a une vitesse de 20 à l'heure, 30 à l'heure, plus éventuellement. Mais tout ça, c'est des caractéristiques d'un vélo. Donc, un vélo, il est interdit par la loi sur le trottoir. Il circule sur une piste cyclable quand il y en a, comme ça. Et quand il n'y a pas de piste cyclable, comme tout le monde, sur la chaussée, point final, même traitement que les vélos, même traitement. Alors aujourd'hui, ces engins-là ne sont pas référencés par la loi. La ministre a dit, vous le savez peut-être, Mme Borne a dit qu'elle allait légiférer et dans le sens qu'on souhaite, c'est-à-dire interdire les engins électriques, trottinettes, monoroues, sur les trottoirs. Donc les mettre ailleurs, et comme les vélos, soit sur les pistes cyclables, soit sur la chaussée, quand il n'y a pas de piste cyclable. Voilà, ça paraît une solution de bon sens. Évidemment, y a des gens qui vont râler, il y aura sans doute des accidents, certes, mais il y a aussi beaucoup d'accidents sur les trottoirs, et ça, c'est tout à fait anormal.
Est-ce que le piéton est toujours un peu la dernière roue des changements de mobilité?
J'en sais rien, mais c'est le plus faible, c'est le plus fragile, c'est le plus lent, c'est le plus silencieux, c'est le plus nombreux aussi.
Oui.
Et donc, je ne sais pas si c'est la dernière roue, mais en tout cas, il a une caractéristique particulière. La marche, c'est quand même la première des activités physiques depuis des millions d'années, millions, voire, j'ose pas dire milliards, mais en tout cas, millions, c'est sûr. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Néandertal, qu'est-ce qu'il faisait ? Il marchait, voilà.
Oui. Voilà. Il n'y avait pas de trottinette, après.
Non, ils n'avaient rien. Donc, c'est la première des activités physiques pour un individu depuis des millions d'années. Donc ça donne une force, au fond, à l'activité piétonne, voilà. Et en ville, évidemment, c'est tous les jours violé, cette nécessité de laisser de l'espace aux piétons, mais il faut se battre contre ça. Et je suis content que la ministre ait pris en compte, en tout cas c'est ce qu'elle a dit, pour l'instant la loi n'est pas présentée au Parlement, mais j'imagine que ça va se faire.
Il y a aussi une dimension qui m'interroge dans tout ça, c'est que s'il y a une question de civisme aussi derrière tout ça, c'est-à-dire que la rue, le trottoir, c'est quelque part la première ou la principale expérience de civisme, c'est une expérience collective quotidienne, et je trouve qu'il y a justement une grande part d'incivilité dans la circulation de ces engins et qui, oui, parfois, effectivement, vous frôle, vous rentre dedans.
Dans la circulation en ville, il y a beaucoup d'incivisme, vous savez bien. Oui. Quand on engueule le mec qui va pas assez vite ou qui se gare, qui cherche son chemin, etc. etc. Donc, c'est la circulation en ville, c'est certainement un lieu toujours d'un peu d'exaspération et d'incivisme. Un civisme pas très grand, mais qui peut devenir accidentogène. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, la circulation des trottinettes électriques et autres sur le trottoir, ça, c'est générateur d'accidents, et on en connaît.
Ça vous a inquiété quand vous les avez vus arriver avec ces systèmes très faciles qu'on pouvait prendre? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu ça débarquer?
Je trouve qu'il y a une modernité dans ça qui est incontestable. Et moi, je suis pour la modernité. On n'arrêtera pas ça. Il ne faut pas se faire d'illusions. On ne l'arrêtera pas. Donc, il faut essayer de le canaliser. Il faut essayer d'éduquer. Alors, il y a deux idées. Il y a faire de la répression quand c'est possible, mais c'est très difficile, et en tout cas faire de l'information, et ça, il faut faire de l'information sur les utilisateurs de ces engins-là. Oui. Nous avons rencontré au moins un opérateur, c'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est mon président, au moins un opérateur de trottinettes électriques en location, Lime, oui. Et on lui a dit tout ça. Il a dit oui, alors lui il dit oui, il écrit sur ses trottinettes, sur certaines trottinettes, il écrit clairement ne circulez pas sur les trottoirs. D'autres, c'est écrit moins clairement, mais enfin, ils connaissent, ils savent que ça n'est pas une bonne solution de circuler sur les trottoirs. Mais il faut informer les utilisateurs, oui. Et ça, c'est difficile. Ça doit se faire à l'école, ça doit se faire par la télé, par votre radio, qui est une radio de jeunes.
Alors c'est bien beau de crier sur tous les toits que les trottinettes peuvent être dangereuses. Le mieux, ça reste encore le témoignage de première main. J'ai donc passé un petit coup de fil à Aline Chiesa, retraitée parisienne, qui porte encore les séquelles de sa rencontre avec les trottinettes électriques.
C'était le 24 septembre. J'étais à l'angle de la rue de Vieille-du-Temple et de la rue de Rivoli. Je voulais traverser la rue de Rivoli. Je traverse toujours sur les passages piétons. Je voulais m'engager. J'ai regardé à droite et à gauche, d'ailleurs, et je n'ai pas vu la trottinette. J'ai voulu m'engager, et puis après, c'était le trou noir, puisque je ne me souviens absolument de rien. Alors, est-ce que la trottinette, je l'ai vue sans la voir ? Je ne saurais dire, parce que je me suis réveillée, les pompiers étaient en train de me mettre une minerve, donc il s'est quand même écoulé plusieurs minutes avant qu'il n'arrive, étant donné qu'ils ont été appelés par la boutique qui m'a vue par terre. J'étais à moitié sur la chaussée, à moitié sur le passage piéton. Et voilà, je me suis réveillée lorsque les pompiers étaient là et m'ont emmenée aux urgences. Ça a été un choc excessivement violent.
Quelles conséquences sur votre santé ça
écoutez,
a eu
les conséquences, alors traumatisme crânien avec perte de connaissance, hématome très important, cornée touchée, point de suture, côte cassée, la main est touchée, alors je n'ai pas retrouvé tout à fait l'usage de ma main. J'ai appris hier que j'avais vraisemblablement une fracture de la face. Et alors, pour couronner le tout, j'ai appris également hier que l'assurance du jeune homme qui s'est arrêté ne couvrait pas les accidents de trottinette. Et d'ailleurs, j'ai renvoyé un mail à Monsieur Le Chevalier pour lui dire que vraiment la mairie de Paris est complètement inconséquente, inconsciente. Elle permet l'autorisation, elle laisse des distributeurs installer leurs trottinettes sans prévenir les usagers des risques qu'ils encouraient, tant au niveau des accidents, de la violence, parce que c'est vraiment un choc excessivement violent. J'ai quand même été inconsciente au minimum 5 minutes, hein. Au minimum 5 minutes. Et bon, je ne m'en tire pas trop mal, mais vous voyez, 4 mois après, on découvre encore des choses. Puisque j'avais un visage excessivement marqué, hein, traumatisant.
Je me demandais comment vous étiez retourné, du coup, peut-être légalement contre la personne qui conduisait ou contre le fabricant ?
Jusqu'à maintenant, on m'a dit que ça n'aboutirait à rien. De toute façon, j'étais partie du principe que ce jeune homme s'était arrêté, avait voulu vraiment m'assister puisqu'il souhaitait m'accompagner aux urgences. J'ai accepté qu'on lui donne mon numéro parce que la police était là et ne donne pas les numéros. Il voulait m'envoyer des fleurs. Enfin, vous voyez, il a été très présent, oui. Et je ne voulais pas porter plainte. Par contre, je m'étais promis de diffuser au maximum le message négatif sur ces trottinettes qui ne sont pas des mobilités douces comme s'acharne à le dire la mairie de Paris. Ce sont des mobilités silencieuses mais excessivement violentes. J'aurais pu y rester, hein, vraiment. Oui. Mais vraiment, d'ailleurs, il y a eu à Londres, je crois que c'est à Londres, un accident exactement similaire, d'après ce que j'ai entendu et lu, au mien, et la femme est morte une semaine après.
Oui.
Mais alors, en plus, découvrir que les assurances ne couvrent pas ce genre d'accident, c'est-à-dire qu'on est obligé de se retourner vers le fonds de garantie qui donne le minimum de choses. Moi, il y a quand même de la souffrance, il y a quand même un handicap parce que ne pas pouvoir couper un morceau de pain.
Vous avez échangé depuis avec le jeune homme qui conduisait la trottinette ?
Pour ne rien vous cacher, pendant, je pense, à peu près 2 semaines, oui, 10 jours, tous les jours, il m'envoyait des textos pour me demander comment j'allais. Et puis, du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles, mais je sais pourquoi, parce que son assurance a dit qu'il ne couvrira pas. Je ne cherche pas à punir, c'est pas dans mon état d'esprit. Je cherche à, et je vais faire le maximum. Si je dois porter plainte, je pense que je porterai plainte contre la mairie de Paris. Parce que c'est inconséquent. Et allez, on a autorisé tout, vraiment tout, aucun respect du code de la route pour les vélos. Souvent, les conducteurs de vélo, les utilisateurs de vélos sont des utilisateurs de trottinettes. Chasser le naturel, il revient au galop. Pourquoi voulez-vous que sur la trottinette, on applique le code de la route et qu'on ne le fasse pas sur les vélos ?
Bon, sur ce constat assez rude, il est quand même temps d'entendre ceux qui croient au bienfait de ces nouveaux engins roulants dans nos villes. Ils sont depuis peu réunis au sein de la FP2M, la Fédération des professionnels de la micromobilité. Je suis allé rencontrer l'un de ses administrateurs, Jocelyn Lumetto, pour lui demander s'il comprenait l'inquiétude que pouvait générer chez des gens comme moi les trottinettes électriques.
Il y a encore 2 ans, on en voyait que de temps en temps. Depuis quelques mois, ça explose dans tous les sens. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de peurs. Il y a beaucoup de choses qui sont un peu fantasmées, mais c'est normal, quand quelque chose est nouveau, ça crée toujours des craintes, ça crée beaucoup d'attentes. Et donc nous, on n'est pas surpris par parfois des messages un peu négatifs. Mais à côté de ça, quand on voit l'engouement des gens, quand on voit comment ça explose de partout, c'est-à-dire que aujourd'hui, les trottinettes électriques, mais aussi les roues, les gyro-roues, rendent un vrai service aux gens. Les gens n'y vont pas juste parce que c'est une mode. Les gens, ils y vont parce que dans leur utilisation quotidienne, ils ont une vraie utilité.
Mais il reste quand même à cadrer un peu tout ça, parce que on va dire que l'usage est apparu avant qu'il y ait forcément un cadre légal ou en tout cas une organisation de la ville qui soit totalement adaptée. J'imagine que c'est un sujet de travail pour les industriels du secteur.
C'est l'une des principales choses pour lesquelles le syndicat a été créé. Parce que justement, il fallait un encadrement qui soit adéquat. Aujourd'hui, il faut faire attention parce que beaucoup, malheureusement, de professionnels parlent d'une absence de réglementation ou de réglementation. Non, il n'y a pas d'absence de réglementation. Toutes les réglementations sont toujours présentes. Simplement, c'est une réglementation qui n'est pas adaptée. Comme vous l'avez dit, l'usage a pris le pas sur la réglementation. C'est normal. Toute innovation prend toujours le dessus. C'est pour ça que ce sont des innovations. C'est parce que on est sur une innovation en plus de service. Vous savez que les trottinettes motorisées, il y a des images qui datent des années 40, des années 50, où il y avait des trottinettes motorisées à thermique. Donc, c'est pas le produit qui est nouveau. Par contre, un usage aussi intensif dans le déplacement et autres, c'est totalement nouveau. Donc évidemment, innovation veut dire que les autorités qui gèrent justement l'espace public doivent adapter les réglementations en fonction des nouveaux usages.
Comment vous voyez-vous une adaptation qui soit, on va dire, juste, qui soit mesurée, qui contente un peu tout le monde ?
Aujourd'hui, il y a pas mal d'échos assez positifs du côté français, du côté en tout cas de l'administration, qui vont un peu dans le sens de nos propositions depuis presque 2 ans maintenant. Pour nous, c'est simple. Une trottinette électrique, une gyro-roue qui sert au déplacement, sa place première est sur la piste cyclable. Parce que c'est adapté aux vitesses, les différentiels de vitesse avec les cycles sont adaptés. Nous, quand on parle de trottinettes, c'est les trottinettes évidemment qui sont limitées à 25 km/h. Malheureusement, en France, et on se bat pour que ça soit mieux, en France, il n'y a pas beaucoup de pistes cyclables. S'il y avait beaucoup de pistes cyclables, la question ne se poserait pas. Donc, en absence de pistes cyclables, nous, ce qu'on dit, c'est soit la chaussée, soit le trottoir. Mais attention, là, il faut qu'on soit très clair que la priorité, c'est la sécurité des usagers, en fonction de là où ils sont usagers vulnérables. Sur le trottoir, l'usager vulnérable, c'est le piéton. Sur la chaussée, l'usager vulnérable, c'est le trotteur. Donc là, nous avons poussé, et il semble que les derniers échos soient plutôt dans ce sens-là, pour qu'on donne aux autorités locales la main pour décider soit de la chaussée, soit du trottoir. Je m'explique. Un samedi après-midi, dans Paris, rue de Rivoli, trottoir étroit, effectivement, on ne met pas quelqu'un en trottinette sur un trottoir extrêmement dense. Et en plus, Paris étant une zone, on va dire, de fort trafic, ça roule pas très vite. Donc le différentiel de vitesse n'est pas très important, donc on va sur la chaussée assez facilement. Par contre, si vous êtes dans une zone industrielle, vous êtes du côté de Herblay, à l'extérieur, en périphérie, avec une route, une chaussée où ça roule très vite, où les différentiels de vitesse sont très importants, si vous mettez quelqu'un en trottinette dans cette chaussée-là, c'est quasiment criminel. Alors qu'à côté, on va avoir parfois un trottoir qui est très large, qui est très peu utilisé, qui est très adapté. Et donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut absolument redonner au maire, au préfet, le pouvoir, en fonction des réalités de leur région, du secteur, de décider que ici, effectivement, on favorise le déplacement, mais les gens sont mieux sur le trottoir, plus en sécurité, à la vitesse du pas, attention. Donc nous disons sur le trottoir, il ne faut pas que ce soit un trottoir où on va à 25 km/h dans tous les cas, ça sera un trottoir où on ira à la vitesse du pas qui est 6 km/h, ou sur la chaussée 50, la chaussée 30, à 25 km/h, et là, c'est aux autorités locales de décider sur ces deux aspects-là.
Quand vous voyez qu'on dit aussi beaucoup que les trottinettes électriques sont accidentogènes, dans le sens où il y a des usagers qui se blessent, c'est arrivé, il y a aussi des usagers qui blessent des piétons. J'ai eu le cas d'une dame qui m'a raconté sa mésaventure rue de Rivoli, justement, où elle a été percutée par une trottinette alors qu'elle traversait. Est-ce que ça suffira justement de cadrer la manière de circuler de ces engins? Parce qu'il y a un autre problème, c'est qu'elles sont silencieuses et qu'elles peuvent donc ne pas être entendues, ne pas être vues à temps par les piétons ou par les automobilistes.
Effectivement, il faut commencer par l'encadrement. Mais l'encadrement, vous savez, les vélos sont encadrés, les motos sont encadrées, les voitures sont encadrées, ça n'empêche pas les accidents. Et nous savons très bien que les trottinettes, à partir du moment où il y a une utilisation intensive, on risque d'avoir le corollaire à côté de l'accidentologie. Plus il y en a qui utilisent, plus évidemment, statistiquement, la probabilité d'accident augmente. Donc, il y a un gros travail à faire sur les usagers, pour la pédagogie au niveau des usagers. Ensuite, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Nous avons par exemple des accidents, et les cyclistes ont très souvent ça, sur les pistes cyclables. Ça veut dire qu'il y a aussi une pédagogie sur la population d'une manière générale, pour que le piéton apprenne aussi à composer avec les autres. Une piste cyclable, c'est une piste cyclable, c'est pas une piste pour aller se balader. Il y a beaucoup d'accidents, cyclistes ou trotteurs, sur les pistes cyclables. Donc il y a quand même une pédagogie à avoir. Vous parliez de, effectivement, elles sont silencieuses, mais aujourd'hui, nous allons à tout électrique. Il y a des motos électriques, les voitures électriques à qui on reproche la même chose. Mais ça se résume à quoi? Ça se résume à une éducation de la personne qui est dans l'espace public. L'espace public n'est pas un jardin privé. On doit faire attention quand on est sur l'espace public. On ne peut pas d'un côté vouloir, d'un point de vue écologique, qu'il y ait moins de perturbations, et dire que les trottinettes sont silencieuses, donc il faudrait leur rajouter du bruit, donc rajouter de la nuisance sonore dans les centres-villes. Ce serait totalement antinomique. Il y a une vraie pédagogie à faire auprès des utilisateurs et des non-utilisateurs sur le fait que la rue est un espace de partage, est un espace où il y a plusieurs moyens de déplacement. Donc, on ne traverse pas sans regarder, on ne marche pas sur une piste cyclable sans regarder, et effectivement, on fait attention autour de soi. À tous les niveaux, ça doit être un vrai travail de pédagogie à faire.
Mais qui doit le faire, ce travail de pédagogie? Puis comment le faire, surtout?
Qui doit le faire, c'est tout le monde. Les associations d'utilisateurs, aujourd'hui, les associations d'utilisateurs du vélo, par exemple, font beaucoup un gros travail là-dessus. Les professionnels tels que nous, tels que la FP2M, les ministères, le ministère des Transports fait beaucoup de choses sur la pédagogie. Les associations telles que l'association de prévention routière, même les assureurs font énormément de choses. Donc, il n'y a pas de miracle. La pédagogie, c'est du rabâchage. Il faut rabâcher les mêmes discours. Faire attention. Il y a, vous allez en Allemagne, par exemple, le port du casque est quasiment à un taux très élevé. Pourquoi? C'est pas obligatoire pourtant. Mais il y a eu un travail de pédagogie. Les gens ont pris conscience de l'intérêt de mettre le casque. Et aujourd'hui, sans avoir besoin de la rendre obligatoire, les Allemands ont un taux d'utilisation qui est extrêmement élevé. Nous croyons beaucoup à l'action de pédagogie parce que vous n'empêcherez jamais quelques excessifs de faire n'importe quoi avec le produit. Par contre, tous ceux qui ont une utilisation responsable, eux, ils écouteront les messages.
« Rien à faire, la cohabitation semble la seule issue. Alors je veux bien faire un pas en direction des trottinophiles et cesser de les haïr aussi férocement, mais attention, le premier qui roule un peu trop près, je ne réponds plus de rien. Merci à Jean-Paul Le Chevalier, Aline Chiesa et Jocelyn Lometto pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.